Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. On l'appellera l'appel de Grigny. Il a été lancé ce lundi dans la ville du même nom, dans le département de l'Essonne, par plusieurs dizaines de maires réunis en états généraux de la politique de la ville. Des maires inquiets. Le gouvernement a supprimé cet été une partie des crédits alloués à cette politique, plus de 46 millions d'euros, auxquels il faut ajouter la baisse du nombre d'emplois aidés. Pour ces élus locaux, ces coupes budgétaires sont d'autant plus inquiétantes qu'ils font le constat d'une détérioration du climat social dans de nombreux quartiers. Voilà qui vient ternir la célébration du 40e anniversaire de la politique de la ville. À sa création en 1977, elle visait à atténuer les inégalités sociales entre les territoires en concentrant les efforts de l'État sur les zones les plus désavantagées, les fameuses banlieues. Aujourd'hui, 1500 quartiers, 5,5 millions de personnes sont concernées, des sommes considérables ont été dépensées, notamment en matière de rénovation urbaine. Et pourtant, le constat semble immuable. Chômage, violence, échec scolaire, pauvreté font encore partie du diagnostic 40 ans après. Alors, politique de la ville, un mal nécessaire. C'est de cette question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de Naïma Mfadel Ntidam. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjointe au maire de Dreux. C'est une ville qui se trouve dans l'Eure-et-Loire, chargée de l'action sociale et santé. Vous êtes chargée de mission politique de la ville depuis quelques années. Vous avez publié Au Seuil cette année avec Olivier Roy et tout ça devrait faire d'excellents Français. Pour discuter avec vous, Stéphane Gatignon, bonsoir.
Bonsoir.
Maire de Sevran en Seine-Saint-Denis, vous étiez un des animateurs des états généraux à Grigny. Aujourd'hui, vous avez signé une tribune publiée dans Libération en mars dernier, un nouvel état d'urgence pour la politique de la ville. Vous étiez plusieurs à co-signer cette tribune. Et puis troisième invité, Mohamed Mechmage, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur et président d'honneur du collectif Passons-nous, le syndicat des quartiers populaires. Par ailleurs, fondateur également et président du collectif Assez le Feu.
Plus président.
Plus président, mais fondateur en tout cas. Ouais. Bah ça, on le reste à vie. Puisqu'on parle de tribune, vous, c'est dans Mediapart que vous avez signé une tribune il y a quelques jours de cela, intitulée « État généraux de la politique de la ville, de qui se moque-t-on ? » Alors, sans passer trop de temps peut-être sur ce sujet, mais dans cette tribune, vous critiquiez assez vertement ces états généraux qui ont eu lieu à Grigny aujourd'hui en dénonçant un coup de communication. Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce qui s'est déroulé aujourd'hui ?
Cette tribune, effectivement, elle a été écrite par la coordination Passons-nous. Ce n'est pas justement fait. Hein. C'est tout un collectif qui aujourd'hui œuvre dans tous les quartiers de France, qui clairement ont décidé à un moment ou à un autre de ne pas rester spectateurs, mais de se dire que bon, si les choses ne sont pas faites, qu'est-ce que nous on décide de faire pour que les choses elles changent ? Donc c'est aussi tout simplement agir pour plus subir. Les états généraux, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres depuis, pas dire 40 ans, parce que ça serait. Mais au moins, ces 20 dernières années. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que tant qu'on continuera à faire, sans que les acteurs qui au quotidien œuvrent, les élus y sont, il n'y a pas de problème. Mais qu'à un moment ou à un autre, on demande à un secteur associatif d'être dans une salle et ne pas co-construire, parce que je me bats beaucoup sur la co-construction, ce qui fait en sorte qu'à un moment ou à un autre, on a aussi, et nous sommes aussi experts, et on a une percée d'usage qui n'est pas négligeable. Je dis tout simplement, voilà, ce qu'a lancé aujourd'hui les états généraux à Grigny, j'en avais même parlé avec le maire de Grigny parce qu'on s'est retrouvé sur un autre plateau, et il a reconnu, il a dit c'est vrai, on a déconné, on aurait dû associer le tissu associatif qui œuvre globalement.
Maintenant, si aujourd'hui, vous étiez par exemple, Passons-nous, vous étiez invité, mais vous avez préféré ne pas vous y rendre, c'est ça ?
Même pas, on n'a même pas été invité, on a été invité tardivement pour nous dire venez dans la salle, voilà. Enfin, c'est pas ce qu'on demande. À un moment ou à un autre, si on veut traiter cette question-là d'égal à égal, il faudrait qu'à un moment ou à l'autre, on puisse construire ces questions-là, parce que nous sommes aussi, nous, aujourd'hui, on subit toutes ces baisses et ainsi de suite que le gouvernement prend, ainsi de suite. Et quand on dénonce cette forme de communication et politicienne, c'est qu'encore une fois, quoi, je veux dire. En plus, ce qui aujourd'hui nous étonne, c'est que la seule association qui aujourd'hui a travaillé sur cette construction, c'est Bleu Blond Zeb. Moi, ça me fait un peu sourire parce que honnêtement, ils ne sont pas implantés dans le quartier. J'ai l'impression qu'ils connaissent le quartier depuis 2 mois, et donc c'est juste pour nous une manière de se foutre un peu de nous, quoi.
Alors, comme je le disais, sans passer trop de temps sur cette question, même si ça révèle aussi sans doute des problématiques liées aux difficultés de la politique de la ville. Mais Stéphane Gatignon, sur la communication politicienne, est-ce que c'est un petit peu dommage,
non,
peut-être qu'il y ait
non,
eu ce déséquilibre?
Du tout, mais je crois qu'il n'y a pas de, il y a absolument pas de communication politicienne derrière tout ça. C'est, vous savez, on a signé un texte, c'est pas en mars, nous, en tout cas, c'est début août. sur deux choses qu'on fait déborder, deux gouttes qu'on fait déborder le vase. C'est la question de la suppression des 2 millions pour la Seine-Saint-Denis, mais des 40 millions de politique de la ville cet été. Et puis la question des contrats aidés. Voilà, et notamment. Notamment à partir aussi du secteur associatif. Quand on s'est vu en septembre, on est mi-octobre, voilà, on a décidé effectivement d'aller vers des rencontres pour réunir déjà les maires et les élus qui étaient concernés par tout cela. Et ensuite, les choses ont pris. On a préparé ça assez vite, hein, en 3 semaines, avec l'idée effectivement d'états généraux, en se disant que bon, certains voulaient marquer le... pas dire c'est une convention, une simple réunion, de dire on va se lancer dans un truc qui... Il y a un problème, il faut le traiter. Il faut avoir une discussion longue avec le gouvernement aussi pour que les choses avancent. Donc on a un certain nombre de sujets qui sont à la fois des sujets, j'allais dire, d'élus, de maires, les questions notamment de finances et de...
Voilà.
De dotation.
Il faut voir un
petit
peu.
Qui sont des choses des questions qui nous sont posées. Et je rappelle que les discussions budgétaires pour le projet de loi de finances 2018 ont lieu maintenant. Donc, on est aussi dans ces urgences-là. Et donc, après, de commencer de réunir. Au début, des élus. Et après, on a réuni des associations aujourd'hui. Moi, après, chacun a fait un peu... voilà, moi, j'ai invité un certain nombre d'associations qui sont venues. Certaines se sont exprimées tardivement, c'est clair. Mais tout le monde a été prévenu, de toute façon, dans cette opération tardivement. Voilà, et je pense qu'on est dans un processus. Là, l'enjeu, quand même, juste pour finir, aujourd'hui, il y a à peu près 150 maires, premiers adjoints, qui sont venus de toute la France, voilà, des zones périurbaines et des zones urbaines qui sont concernées par ce qui est dans la politique de la ville, et notamment des questions de dotation. C'est la première... Moi, je suis maire depuis 17 ans. C'est la première fois que je vois qu'on arrive à se retrouver de cette façon-là sur des choses positives, et puis en étant aussi revendicatif sur un certain nombre de choses. Et donc on ouvre un débat, et ce que j'espère par contre, c'est que tout le monde petit à petit sera associé, puisqu'on ne compte pas s'arrêter là.
Alors les revendications, elles se traduisent justement par cet appel que j'évoquais au début d'émission, avec deux, parmi les deux premières mesures qui sont demandées, suspension immédiate de la réduction des contrats aidés et rétablissement immédiat des financements de la politique de la ville. Donc c'est 46 millions d'euros qui ont été supprimés, alors sachant que le gouvernement dit, attention, on va les rétablir dès l'an prochain. Naïma Mfadel Ntidam, est-ce que, en tout cas, ces coupes budgétaires, elles vont avoir, pour vous, alors je rappelle que vous êtes élu à Dreux, un impact direct sur un certain nombre de fonctionnements, disons, que vous mettez en place dans le cadre de cette politique de la ville?
Alors nous, sur Dreux, pas vraiment, parce qu'on n'a pas beaucoup de contrats aidés. On n'a pas de recrutement en contrat aidé. Je voudrais juste rappeler une chose concernant le contrat aidé.
Je ne parlais pas que des contrats aidés, oui. Hein, je parlais aussi de la baisse budgétaire.
On n'est pas vraiment impacté. Au niveau de Dreux, on n'est pas impacté. Voilà. Mais je voudrais juste revenir, justement, moi ce que j'aimerais qu'on puisse aborder, c'est, je trouve intéressant, hein, qu'il y ait les assises, mais je pense qu'au bout de 40 ans de la politique de la ville, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème, que ça ne fonctionne pas vraiment, qu'aujourd'hui, l'insertion sociale, culturelle, etc., tant attendue par la politique de la ville, qui devait travailler aussi sur les difficultés d'échecs scolaires, d'échecs éducatifs, de sécurité, etc., aujourd'hui, malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, j'aurais aimé, moi, pour le coup, qu'on puisse parler de cette politique de la ville et s'interroger, est-ce que le dispositif est toujours à l'heure? Est-ce qu'on peut pas le revoir? Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui nécessaire de revoir cette politique dans une démarche globale, dans une démarche de cohésion aussi nationale? On est quand même aussi traversé par des enjeux dans notre pays. Et aujourd'hui, il est temps, parce qu'on est le pays fracturé, il y a une fracture sociale, culturelle, ethnique, elle est réelle. Vous le voyez tous les jours dans vos villes. Moi, je le vois aussi dans ma ville. On n'est plus dans le vivre ensemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comment la politique de la ville peut être repensée? Et je reçois M. Machmach dans le sens où on met au centre l'humain, où on met au centre les citoyens, tous citoyens confondus, et non pas dans ce zonage qui sectorise, qui assigne la résidence.
Juste Naïma Fadel, pour que tout le monde comprenne bien, il faut expliquer, voilà, le zonage, c'est-à-dire ce sont un certain nombre de quartiers qui ont été définis, 1514 précisément quartiers qui sont bénéficiaires de la politique de la ville, avec le critère essentiel qui est retenu désormais depuis 2014, je crois, c'est celui du niveau de moyen de pauvreté, pour faire un petit peu simple. Est-ce que vous êtes en tout cas d'accord, et Mohamed Mechmach et Stéphane Gatignon, pour dire la réflexion, peut-être plutôt que de la porter sur les moyens budgétaires, elle devrait d'abord porter sur finalement, qu'est-ce qu'il faudrait redimensionner dans le dans ce qu'est la politique de la ville, Mohamed Mechmache?
Bah écoutez, c'est de remettre l'humain au cœur des politiques publiques, ça c'est une chose. C'est lui permettre tout simplement d'avoir les mêmes droits communs que les autres. C'est-à-dire, la politique de la ville, quand elle a été créée, c'était parce que dans certains territoires, on a observé qu'il y avait un manque. Et donc, il fallait absolument impulser des politiques qui puissent permettre de refaire venir le droit commun.
Donc, un manque, des inégalités fortes.
Des inégalités, c'est-à-dire sur l'aspect éducatif, santé, scolaire, emploi, et ainsi de suite. Je veux dire, au bout de 40 ans, on en est encore, effectivement, à se poser la question sur ces sujets-là. Je pense que tant qu'on n'aura pas une vraie volonté politique vers le haut, c'est-à-dire que si vous regardez bien, la politique de la ville, ça a toujours été, malheureusement, les secrétaires d'État, ça a été au plus bas. C'est-à-dire que quand on prend la chaîne pyramidale, tous les autres ministères sont concernés en politique de la ville. Le ministre de la politique de la ville devrait être au-dessus des autres et permettre les orientations pour qu'en bas, on puisse orienter les crédits dans le bon sens. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le ministre de la politique de la ville, il est en bas, puis il est obligé de frapper à la porte du ministère de l'Éducation, et ainsi de suite, en disant, s'il vous plaît, il faudrait que vous puissiez impulser des crédits, et ainsi de suite. Donc, on n'arrivera pas à résorber ça si on n'a pas une vraie politique. Et le financement de la politique de la ville, c'est 0,17%. Je veux dire, avec l'ensemble des problèmes qu'on vit au quotidien, c'est compliqué, ouais. Je veux dire.
Alors, question d'organisation et de place dans l'architecture, on va dire, du pouvoir, et question de financement, nous dit Mohamed Mechmache, Naïma M. Fadel Kidab.
Oui, alors moi, je pense que le ministre de la ville, enfin, le ministre de la cohésion nationale, moi, je changerai l'appellation, le ministre de la cohésion nationale.
Parce qu'aujourd'hui, il s'appelle cohésion des territoires.
Cohésion nationale, cohésion des territoires.
C'est cohésion des territoires en ce moment.
Voilà. Il devrait être rattaché, mais je pense vraiment, il faut que ça soit un signe fort qui soit donné. Donc, je pense qu'il devrait même être quelqu'un qui soit rattaché au premier ministre, clairement, donc je rejoins, et que la démarche qu'il faut avoir, c'est encore une fois une démarche sur l'ensemble du territoire, avec le souci de l'égalité de traitement des territoires. Le droit commun, c'est important, ce qui vient d'être dit, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le droit commun est moins investi sur ces territoires-là et qu'on attend que ce soit les deniers de la politique de la ville.
Donc ne pas forcément se concentrer sur certains quartiers, mais avoir une politique globale qui traite des inégalités sur
l'ensemble. Avoir le souci de l'égalité de traitement des citoyens. Il faut que ce soit la vocation, que ce soit sur les individus en fonction de leurs besoins et que sur les territoires, on ait un souci de désenclaver ces territoires et de faire en sorte d'annexer ces territoires à l'ensemble de la ville.
Est-ce que ça pourrait être un des effets pervers de la politique de la ville, Stéphane Gatti? C'est-à-dire d'avoir fixé des territoires et du coup de les avoir peut-être ostracisés
cloisonné.
Aussi.
Cloisonné,
moi,
on a un cloisonnement aujourd'hui.
Depuis que je suis maire quasiment, contre la vision classique qu'on a de la politique de la ville. Et tous mes combats ont été là-dessus, sur la question notamment de retrouver le droit commun. Et en premier lieu, moi je suis maire dans les collectivités locales, la question des inégalités de territoire se traite déjà en premier lieu par des inégalités de richesse entre les communes, qui sont et qui demeurent, et suivant les gouvernements. Celui qui a le plus bossé là-dessus, c'est, faut être clair, c'est Borloo. Mais il y a eu Borloo et il n'y a pas eu grand-chose d'autre là-dessus. Tous les gouvernements, c'est un premier pas. Comment aujourd'hui une commune, avec ce qu'on demande, et une bonne mesure du gouvernement d'ailleurs, parce qu'il faut dire quand il y a des bonnes mesures, la question notamment des CP, des doublements des CP en REP+, la vraie question, c'est que aujourd'hui, y compris là-dessus, on est en difficulté pour aménager ces classes, parce qu'on n'a pas les moyens de les aménager. Donc on est là-dessus, et quand vous avez, moi j'ai oscillé toujours sur la moyenne de la strate, par an entre 23 et 30 millions d'euros de fonctionnement en moins qu'une ville de même strate que Sevran, depuis 17 ans. Voilà. Et je dis là, le droit commun déjà ne s'applique pas. Donc comment est-ce qu'on peut avoir, y compris dans les responsabilités communales qui sont simples, hein, l'école, les stades, les trucs basiques, la culture, etc., qui concernent le vivre ensemble.
Donc on est d'accord.
Rien que là-dessus.
Mais le souci d'une ville.
Non, mais attendez, madame. Moi, je veux bien. Tant que vous réglerez pas ça, s'il y a un truc à faire, déjà, c'est ça. Et là, au moins, il y aura, je parle pas d'égalité, hein. Je parle d'équité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, depuis des années, on a toujours favorisé les communes qui ont des moyens financiers. Voilà. Et c'est ça le problème. Et tous les gouvernements qui se sont succédés, et je suis bien placé pour le savoir, tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas réussi à travailler là-dessus et n'ont pas voulu par manque de courage politique, attaquer cette question-là.
Oui, mais Stéphane Gattini, est-ce que vous seriez d'accord, vous, pour dire qu'il faut sortir de la politique de zonage, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de définir des quartiers ?
Déjà, il y en a plein le dos d'avoir des zonages, y compris dans des villes. Moi, ce que j'ai expliqué, j'ai dit à des gens du gouvernement, j'ai dit au moins, faites des propositions et soyez à l'échelle des communes. Voilà, arrêtez de dire des fois, t'as des rues, machin, ça veut rien, c'est n'importe quoi.
Parce que dans certaines communes, il peut y avoir des habitants qui considèrent qu'ils devraient être aidés, qui ne le sont pas.
Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce zonage, la base date de 98. Moi, je vois chez moi, à Sevran, j'ai un zonage qui est rétréci. Pourquoi ? Parce que le maire de l'époque, RPF, ne voulait pas avoir toute la ville. Donc, il s'est battu pour avoir le plus petit zonage possible parce qu'il trouvait que ça stigmatisait la ville. Sauf que de ne pas avoir toute la ville ou une grande partie de la ville, moi, nous, ça nous a coûté des millions d'euros tous les ans. Et donc, voilà. Et donc, si vous voulez, toutes ces histoires, ça, c'est pas possible. Déjà, ayons un minimum d'égalité entre les communes, ayons à peu près les mêmes ressources, et on aura fait un grand pas.
Alors, un minimum d'égalité entre les communes, moi, je vais prendre juste une commune, par exemple. Prenons une commune.
Prenons la vôtre, justement, Naïmam Fadel. Juste, laissez-moi poser ma question, essayez aussi de m'écouter un tout petit peu. Prenons la ville de Dreux. Est-ce que, par exemple, cette question du zonage est d'avoir des quartiers qui sont définis comme étant récipiendaires de la politique de la ville, est-ce que ça peut créer aussi des problèmes, des formes de rivalité entre les habitants d'une même ville qui pourraient avoir les mêmes besoins, mais certains, en gros, sont dans le bon territoire, c'est-à-dire celui qui va être aidé, et d'autres qui ont aussi des difficultés, mais qui ne sont pas dans le bon territoire. Est-ce que ça peut aussi se traduire comme ça ? Est-ce que c'est ce qui explique que vous soyez contre cette approche-là ?
Tout à fait. Alors moi, il y a deux choses. Déjà, effectivement, dans le cadre du traitement des territoires, par la politique de la ville, il y a les dispositifs qui vont sur les quartiers et pas sur d'autres endroits de la ville. Il y a des dispositifs aussi qui cloisonnent la population. Il faut savoir une chose, c'est que les emplois aidés, vous avez des emplois aidés, il faut que ça soit pour le quartier, pour les gens du quartier, avec des habitants du quartier, par exemple les adultes relais. Ensuite, les appels à projets. Oui, mais vous cloisonnez. Alors que c'est les mêmes populations qui se retrouvent avec des gens qui leur ressemblent. Moi, j'ai envie de mixité sociale, culturelle, ethnique et religieuse. J'ai envie que les gens vivent ensemble réellement. J'ai envie, alors qu'à ce moment-là, ces dispositifs-là existent, mais donc dans ce cas-là, ce soit pour l'ensemble des populations. Et du coup, vous pouvez avoir des gens du centre-ville qui sont au chômage, qui peuvent prétendre à ces dispositifs, qui viennent travailler sur le quartier et vice-versa. Vous voyez, c'est ça qui peut être intéressant. Et j'ai envie aussi que, par exemple, aujourd'hui, vous savez que dans un quartier, vous pouvez faire toute votre scolarité, de la maternelle jusqu'au lycée, sans sortir du quartier. Quand vous savez que ces quartiers-là sont cloisonnés ethnico-sociaux, culturellement, à quel moment vous rencontrez l'autre ? Donc moi, j'ai envie, par exemple, que dans ma ville, si j'ai la possibilité, je vous rejoins, Monsieur Gattignon, d'avoir les financements, donc revoir cette politique de la ville, des financements dans le cadre de cette politique pour que je puisse éventuellement... avoir du financement. Non, il faut inventer des dispositifs pour que les villes qui en ont besoin puissent
le droit
avoir... je termine mes propos. Avoir l'aide de l'État. Et dans ce cas-là, je peux construire en centre-ville une école qui accueille l'ensemble des Drouais.
Mohamed Mechmache, pour rester quand même sur ce terme de politique de la ville, puisque bon, c'est quand même un terme qui, à mon avis, a encore un petit avenir, même si vous n'y êtes pas tout à fait complètement favorable, mais est-ce que vous partagez le constat d'un cloisonnement qui aurait été, si ce n'est créé, en tout cas peut-être accentué par cette politique de la ville ?
Bien sûr, il y a des sigles qui ont changé constamment. Je veux dire, à chaque gouvernement qui arrive, chacun apporte sa touche et dit voilà, je ne l'appelle plus comme ça, je l'appelle comme ça, et ainsi de suite. Ça, on l'a vécu, mais encore une fois.
Mais est-ce que ça cloisonne les habitants les fixe finalement dans un quartier et dans une forme de.
On sait bien ce qu'on dit. Je veux dire, mais c'est pas moi qui le dis, c'est tout ce qui est en train de se passer autour de nous. C'est comment on traite cette population, comment aujourd'hui cette population est considérée sur tous les points de vue, que ce soit sur le côté sécuritaire, ainsi de suite. Vous savez, ces derniers temps, j'ai l'impression que les quartiers populaires. Mis en résidence, je veux dire voilà, assigné à résidence, que sur des aspects violence policière, radicalisation. On parle des quartiers que sur ces aspects-là, quoi. Je veux dire, on parle plus du tout des autres aspects de ces quartiers qui aujourd'hui l'emploi, la sécurité, ok pour tous et correctement une sécurité qui doit être aussi méritée pour les habitants, mais sur la santé, sur l'éducation, sur la formation, sur plein de ces sujets-là, quoi. Je veux dire, donc la politique de la ville, comme elle a été conçue pendant ces 40 dernières années, on le dit, on le répète encore une fois, notre envie à nous, c'est qu'on soit pas considérés comme des Français à part ou des citoyens à part, mais des citoyens à part entière, et qu'on ait exactement les mêmes droits communs. Et sur la question des territoires, bien sûr, qu'il y a des territoires qui sont plus riches que les autres, et que quand ces territoires, effectivement, donneront un peu plus à ceux qui n'en ont pas, peut-être qu'on va rééquilibrer, c'est un fait. Mais je reste persuadé que tant qu'on n'aura pas une vraie volonté politique, tant que nos responsables politiques resteront dans une forme de déni, en disant comment on en étant arrivé là, dans ces situations-là actuelles, dont on est en train de vivre, dont on est en train de palper, on s'en sortira pas non plus. Je veux dire, et ça fait 40 ans qu'on nous considère comme des exceptions. C'est-à-dire que clairement, c'est ce qu'on vous dit depuis un certain temps. Nous sommes des exceptions. Donc qui dit exception dit mesure exceptionnelle. Et donc ça suffit.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Politique de la ville, un mal nécessaire, c'est la discussion que nous menons ce soir avec Naïma Mfadel Tidam, qui est adjointe au maire de Dreux, avec Mohamed Mechmach, fondateur et président d'honneur du collectif Passons-nous, et Stéphane Gatignon, maire de Sevran. Sevran, c'est en Seine-Saint-Denis. J'aimerais comprendre quelque chose, Stéphane Gatignon, puisque vous êtes en responsabilité, vous dirigez une ville. Quand on est maire et qu'on a un ou des quartiers qui sont justement inscrits dans le cadre de cette politique de la ville, quelle est la marge de manœuvre que vous avez? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'État d'abord, c'est le préfet qui décide des moyens qui sont affectés, ou bien est-ce que vous avez quand même un petit peu de liberté pour dire, bah voilà, moi je vais faire porter l'effort sur tel thème ou sur tel thème?
Tout ça est en train de changer, enfin, je tiens également à vous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la métropole du Grand Paris, ce n'est plus de notre compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique de la ville n'est plus de la compétence de la ville, c'est de la compétence du territoire. Donc, nous aujourd'hui, si vous voulez, tous les fonds politiques de la ville, c'est pas la ville qui les vote. Aujourd'hui, il y a des services à l'EPT, hein, notre territoire, c'est Terre d'Envol en Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est eux qui, aujourd'hui, montent les dossiers avec les associations, montent les dossiers, soutiennent les dossiers villes quand il y en a. Et puis voilà, c'est plus nous qui portons les choses et qui prenons les décisions là-dessus. Il faut bien comprendre ça. Mais ça, c'est pour l'évolution de la métropole parisienne. C'est différent encore,
oui, c'est différent.
Évidemment, à Dreux, où je pense que c'est quand même l'agglomération qui doit gérer la politique de la ville à Dreux.
Oui, mais plus, hein, c'est une compétence, c'est la ville qui gère.
Donc voilà, là, donc aujourd'hui, là-dessus, si vous voulez, ça nous échappe. Voilà, c'est pour ça que, bon, on est dans une situation aussi qui est d'une complexité assez importante. Parce qu'aujourd'hui, donc, les gens qui montent les dossiers et tout, sont plus forcément sur le terrain pour connaître tel
assassin. Donc c'est un fossé, là,
donc, c'est un fossé qui se crée. Je pense qu'à Clichy, ça va être aujourd'hui un peu pareil. Enfin, je veux pas le dire. Hein, mais...
Non, mais dans l'ensemble des territoires,
on est aujourd'hui. Donc on est face à cela aujourd'hui. Voilà, aussi. Mais attention, ce qu'on appelle politique de la ville, y compris dans la discussion qu'on a sur ce qui se passe avec les maires, les états généraux et tout ça, et tout ce qui peut se passer autour, n'est qu'un petit bout de ce qui est pour moi, enfin. De tout ce qui concerne les dotations, les enjeux autour de nos territoires, etc. Ce qui a été dit, par exemple, la question du rapport police-population. Aujourd'hui, si on ne le traite pas, si on ne va pas au bout des choses sur la question de la caméra pour les policiers, sur la question du récépissé, etc., qui ne sont pas des questions franco-françaises, qui sont des questions qui se posent en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Allemagne, partout. C'est vraiment des questions au niveau européen. Il y a cette question-là. Comment on arrive à faire qu'on ait aujourd'hui une police qui soit en nombre? Parce qu'un des vrais problèmes aussi, moi, quand je vois chez moi, quand j'ai été élu maire, il y avait 113 effectifs de police. Aujourd'hui, ils sont 84 ou 85. Comment aujourd'hui on ose nous parler de nouvelle police de proximité? Si de toute façon les mecs qui sont sous effectifs, qui sont où il y a donc des difficultés de tension, où en plus de ça derrière on travaille pas sur quel est le rapport entre ces forces de l'ordre et la population, s'il y a pas des contrôles, y compris de l'action policière et tout ça, comment, vers quoi on va? Là, il y a un truc qui peut plus durer. Et pour moi, ça c'est la politique sur nos territoires. Je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit. Je pense, et c'est proposé là-dedans, il faut qu'il y ait un ministre d'État, parce que ça remarche comme ça maintenant, on a à nouveau des ministres d'État, qui soit chargé de toutes ces questions-là, mais qui soit chargé, j'allais dire, d'une vraie réforme des dotations aux collectivités locales. Parce qu'il faut retrouver de l'équité, de l'égalité. Là-dedans, on s'en sortira pas autrement. Comme il faut traiter la question de la police, comme il faut traiter différentes questions.
Moi, je ne voudrais pas qu'on nous associe qu'à la police. Quoi, voilà.
Être associé. Ouais. Après, il faut régler des choses aussi. Les choses qu'on ne règle pas. Ouais. Parce que moins il y a d'effectifs et moins il y a de... plus les choses sont tendues et complexes.
Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est si on ne traite pas la question humaine et sociale, c'est-à-dire que s'il y avait du taf,
ça fait partie.
Si les gamins puissent aller étudier correctement et que derrière, il y a des débouchés et tout le reste, on n'en serait pas là non plus.
Ça en fait partie mais aussi. Un mot là-dessus. Quand Macron commence sa campagne en Seine-Saint-Denis et qui justement s'adresse aux jeunes, il ouvre une perspective quand même. Qu'on soit pour ou contre, c'est pas la question. Mais au moins, on s'adresse aux gens, on les reconnaît. Et là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le gouvernement, depuis 6 mois, il a refermé cette porte. Donc, un des enjeux, c'est que Macron s'adresse à nouveau aux jeunes, aux gens de banlieue, pour leur dire, bah, chacun
oui,
peut réussir.
Il y a quand même quelque chose que je voudrais comprendre avec vous trois, parce que, alors, je sais pas si vous êtes représentatif de ce qui peut se penser parmi les acteurs, c'est-à-dire qui justement œuvrent à la politique de la ville, avec des critiques, bien entendu, mais j'ai l'impression que, enfin, si c'est le cas, et j'imagine que vous devez quand même partager un certain nombre de vos constats avec certains de vos collègues, soit dans le monde politique, soit dans le monde associatif, comment se fait-il que cette politique-là se soit maintenue et se maintienne telle qu'elle ? C'est-à-dire, il doit bien y avoir quand même des gens qui trouvent un certain intérêt à ce que cette politique, elle existe de telle manière. Mmh. Et peut-être aussi, des élus. C'est-à-dire que la politique de la ville, c'est aussi quand même, c'est de l'argent, c'est des subventions.
C'est merde aussi. Attendez, monsieur, il y a un moment, c'est super dur. Pour tout un tas de gens, être dans la politique de la ville, ça l'aide. Pour des assos, c'est réussir à avoir un peu de rond pour faire un peu d'activité. Les contrats aidés qui rentrent
indirectement. Parce que la politique de la ville,
c'est mal plus d'activité.
Naïman Fadel,
c'est de la survie.
On écoute Naïman Fadel.
C'est de la survie.
Voilà. Juste qu'on sorte du misérabilisme. Qu'on soit dans
un parler
vrai, vraiment juste. Parce que le problème, je pense, dans notre pays, c'est qu'on est toujours dans le clivage politique ou idéologique et qu'on n'arrive pas à avancer à cause de cette question de l'idéologie et du clivage politique. Moi, j'aimerais vraiment qu'on soit dans le parler vrai. Camus disait, mal nommer les choses en rajoute au malheur du monde. Et je crois que vraiment, on est dans ça. Là, vous avez cité pêle-mêle les contrats aidés, on n'a pas d'argent. Enfin, je crois que les villes, aujourd'hui, ont, dans le cadre de la DSU, dotation de solidarité urbaine, et de la dotation politique de la ville, ils ont les moyens. Après, il faut s'interroger. Non, s'il vous plaît. Il faut s'interroger si vraiment ces financements, ces subventions données, ces dotations vont réellement au quartier pour lequel elles doivent aller. Je pèse mes mots. Donc, c'est pour ça que dans mon livre, je propose qu'il y ait un budget annexe pour qu'on voit. Est-ce que ce financement qui est donné aux villes ne va pas dans le fonds commun?
Ça bénéficie
par rapport aux critères de pauvreté. Critères de pauvreté, on a des critères de pauvreté dans les quartiers. Donc ça devrait bénéficier quand même aux critères de pauvreté dans les quartiers. La deuxième chose que je voudrais dire, les contrats aidés. Moi, je voudrais quand même revenir sur ces contrats qui sont que je salue, puisqu'il y a des contrats aidés qui permettent vraiment l'insertion. Aujourd'hui, les contrats aidés, par exemple, les CAE, c'est 2 ans. 2 ans, c'est un poste 2 ans pour une personne. Au bout de ces 2 ans, la personne, le contrat se termine. Et les collectivités ou les associations redemandent un renouvellement. Les associations, je vais mettre à part les associations parce qu'elles ont des difficultés, elles n'ont pas les moyens. Mais les collectivités, qu'est-ce qu'elles font? Les collectivités, elles redemandent le renouvellement d'un autre contrat, pour pouvoir bénéficier des financements de la politique de la ville et des subventions de l'État. Du coup, elles précarisent de nouveau les personnes. Des personnes sont précarisées et elles trouvent injuste que sur des postes qui sont pérennes, eh bien, d'autres personnes soient prises. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités utilisent ces contrats pour recruter des départs en retraite ou les départs. C'est une réalité, vous savez bien.
Alors, je vais laisser répondre.
Voilà. Alors, je vais être tranquille.
Stéphane Gallignon, je ne vous vise pas, monsieur Gallignon.
C'est pas la question.
Tout, hein.
Justement, de poser, ce qui est terrible aujourd'hui, je vois tout un tas de villes du Nord, effectivement, qui travaillent de cette façon-là. Pourquoi? Parce que les mecs, ils n'ont plus l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui devraient être emplois municipaux, qui sont contrats aidés, c'est vrai.
Voilà.
Et on a laissé ça.
Vous voyez la précarité de ces personnes?
Mais on a laissé. Mais attendez, je dis ça face à des maires, qui en plus, la plupart, ne sont pas du tout dans une quête politique. Aujourd'hui, ils sont obligés de gérer de cette façon-là. Pourquoi? Parce que vous disiez la question des fonds et des dotations au niveau national, et notamment les dotations de péréquation et tout, ne sont pas assez suffisantes pour ces communes-là qui sont en très grande fragilité et au bord de la rupture financière. Voilà, je le dis d'autant plus que nous, on n'est pas concernés là-dessus, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question.
En revanche, vous avez des associations qui ont une vraie plus-value sur les territoires, qui ont besoin d'être soutenues, mais qui ne peuvent pas pérenniser ce contrat.
Oui,
alors,
mais nous, chez nous,
c'est des contrats.
Juste, excuse-moi, deux secondes, je finis là-dessus pour bien préciser un truc. Oui, et je pense notamment, il y a un truc, le mouvement sportif aujourd'hui vit énormément sur les contrats aidés. Les clubs de foot, tout un tas de clubs, aujourd'hui, ça tourne parce qu'il y a ces contrats aidés.
Mais il faudrait pouvoir pérenniser les personnes. En fait, il faut trouver les moyens de financer ces associations, notamment par des conventionnements.
Et puis, il faut les former.
Alors, qu'elles gardent ces personnes et qu'elles les forment.
N'oubliez pas que vous êtes 3 ce soir et qu'il y a aussi Mohamed Meshmash.
C'est gentil,
merci. Mohamed Meshmash, vous qui représentez, alors, d'une certaine manière ce soir, le milieu en tout cas associatif.
Alors, vous posez la question tout à l'heure sur le si... moi je ne suis pas le porte-parole des banlieues, je le dis, on est porte-voix. D'accord, avec ce qu'on vit, avec ce qui est du réel, avec le quotidien des personnes. Je veux dire, je
me posais la question en tout cas de savoir pourquoi cette politique de la ville continuait 40 ans après, si elle ne quand même, si certains n'y trouvaient quand même pas un intérêt, et si peut-être aussi elle n'avait pas aussi des effets positifs.
Mais bien sûr qu'il peut y avoir des effets positifs. Je veux dire, mais vous avez bien compris qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui arrive, qui détricote ce que l'autre fait, ou ainsi de suite. Donc à un moment ou à un autre, ces politiques, elles peuvent pas aller sur du long terme. Et finalement, et puis même celles qui sont des fois, celles qui sont pas bonnes, des fois au contraire, on les oublie, puis on continue à faire en sorte. Je vous prends un cas spécifique. Les zones franches, qui étaient censées créer de l'emploi, se sont retrouvées à ce que ça a été créé des boîtes aux lettres, où ceux qui aujourd'hui étaient censés embaucher des jeunes issus de ces quartiers ne l'ont pas fait. Pendant 15 ans, on a maintenu ce. Vous avez vu la manne d'argent après? Je comprends que vous dites, et pourtant on a mis beaucoup d'argent dans les quartiers. Vrai. Non, mais c'est comment il a été fléché cet argent et vers qui il a été, ainsi de suite. Et là, sur certains points, je rejoins effectivement Naïma. Voilà. Donc, toutes ces questions-là, encore une fois, c'est ce que je dis. Tant que certains élus continueront à se parler entre eux, nous, on l'a fait ce constat-là. Et quand on a tiré le signal d'alarme et qu'on a alerté en disant là, ça joue pas vraiment le jeu. Les clauses d'insertion dans la rénovation urbaine, où on fait signer à des jeunes des clauses de, allez, 30 heures ou je ne sais combien d'heures, ou ainsi de suite. Et que dans, carrément, ceux qui viennent aujourd'hui dans ces quartiers pour construire, voilà, certains jeunes, presque on leur dit reste chez toi, viens pas au chantier. Moi, tant que j'ai sonné la clause et que j'ai fait en sorte que je t'ai embauché, j'ai pas besoin que tu viennes, c'est pas un problème, parce que je perdrais plus de temps à être derrière toi, pour savoir si tu vas bosser ou pas, qu'est-ce que tu viennes, et ainsi de suite.
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, non, justement, pour inverser
ce... Donc, encore une fois, je reste, parce que on l'a pas annoncé, mais j'ai fait un rapport avec Marilène Baquet, qui s'appelle « Pour une réforme radicale de la politique de la ville, ça se fera plus sans nous ».
Voilà, c'était avec en 2013,
en 2013, qui clairement voulait réformer cette politique de la ville, honnêtement et radicalement, pour que, un moment ou un autre, les choses émanent du bas vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en souffrance, qui vivent des situations qui ne sont plus acceptables. Et il y a aussi des élus qui les vivent avec eux, et ainsi de suite. Je veux dire, mais jusqu'à quand on continuera à être le fonds de commerce? Et je l'ai dit dans la tribune, il y a ceux qui vivent dans les quartiers qui n'en vivent pas, et ceux qui ne vivent pas, qui en vivent. Et jusqu'à quand on va continuer un petit peu cette forme de mascarade qui, clairement, ne nous sort pas de cette impasse, sur plein de points de vue. Oui, le gouvernement a fait un effort là actuellement sur la question de l'école et de l'éducation. Je veux dire, avec un selfie, on avait fait un tour de France sur les cahiers de doléances. 200 000 doléances, 6 mois de travail avec des bénévoles, 130 propositions. On avait demandé à l'époque demander à ce que M. Debré, qui était président de l'Assemblée nationale, de nous recevoir dans l'hémicycle pour qu'on puisse s'adresser à l'ensemble des parlementaires, c'est-à-dire de dire, gauche et droite confondues, vous avez été au pouvoir pendant ces 30 dernières années. Les souffrances de ces habitants, elles se traduisent par des mots et des propositions. Si vous voulez vraiment qu'on sorte de cette impasse, chiche, allons-y.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelques exemples qui pourraient permettre d'être un petit peu plus optimiste? Parce que c'est vrai qu'à écouter finalement la discussion de ce soir, même, et on comprend bien que les difficultés sont importantes, mais ça donne aussi l'image de quartiers, de banlieues qui finalement n'auraient peut-être pas bougé dans les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis une quarantaine d'années. Or, il y a bien aussi des évolutions, il y a bien des quartiers qui sortent. Non, mais déjà, c'est pas ce que je dis. C'est simplement, c'est l'impression. Il y a bien aussi des quartiers, par exemple, qui sont sortis des dispositifs de politique de la ville, et il y a bien aussi quand même du mouvement, c'est-à-dire on n'est pas assigné à résidence quand on est...
Enfin, excusez-moi,
Stéphane Gatignon.
Ça ne se passe pas comme ça. Moi, aujourd'hui, je vois qu'il y a une rupture sur certains territoires, notamment le Nord, où il y a une extrême pauvreté qui arrive, qui débouche de tout. Et je pense que là, on se ferme les yeux, y compris par rapport à la banlieue parisienne. Des fois, il y a beaucoup plus d'argent qui circule, de travail et tout ça. Moi, j'ai vu des trucs quand même vraiment difficiles.
Mais qu'est-ce qui ne se passe pas comme ça? Je comprends pas ce que vous dites, que ça ne se passe pas comme ça.
Non, mais j'allais dire, chez nous, il y a plus de... Nous, dans nos territoires, il y a plus de travail, de pognon, de choses qui circulent, même d'idées, etc. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de jeunes. Voilà, c'est aussi à chacun de se prendre en main, comme le font d'ailleurs les gens comme Mohamed. Ça fait 15 ans, 20 ans maintenant que tu es là-dessus. 20 ans. Voilà, 20 ans que autour de Mohamed, les gens se prennent en main et tout. On peut être d'accord, pas d'accord, c'est pas la question, mais au moins on bouge. Voilà, de nos côtés différents, on bouge, on essaye de faire avancer les choses et tout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la question, il y a besoin d'un vrai discours politique qui redonne confiance aux gens en banlieue et dans les territoires périphériques.
Pas que le discours.
Mais
il y a,
déjà,
il y a les mots
déjà,
pour séduire et les actes pour convaincre. Il faut surtout aussi.
Mais revenons déjà les mots. Après, il y a des actes simples. Il n'y a pas que du pognon à mettre. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Et je pense que. C'est retrouver, moi, au niveau très institutionnel, je vais vous dire, alors là, en tant que maire.
Stéphane. Sur les 30 propositions qu'on fait, mais, je m'excuse. Là,
non, sur les 130 que tu avais fait.
Mais sur que les 30, il y a plein de mesures qui ne coûtent pas un centime, mais qui permettraient honnêtement de relever et de permettre à certains dans ces territoires de regagner une forme de dignité même qui est allée.
Et ben, une par exemple sur les 30.
Une sur les 30, regardez.
On parlait tout à l'heure parce que sinon
non,
on aura
pas on parlait tout à l'heure des financements. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a aussi une mise en concurrence des associations et ainsi de suite, sur les appels à projets et ainsi de suite. Il y a cette forme de clientélisme et ainsi de suite qui aujourd'hui nous gangrène aussi dans les territoires. Il y avait une réserve parlementaire. On a fait une proposition, nous. C'est que cette réserve parlementaire devienne un fonds d'initiative citoyenne pour permettre à des associations et tout le reste de pouvoir, tout simplement, pouvoir avoir une forme d'autonomie. Lorsqu'on voudrait leur un projet, de pouvoir avoir une contre-expertise, de pouvoir se doter de moyens juridiques, d'urbanisme et tout le reste pour y arriver. Vous vous rendez compte? Parce que cette réserve parlementaire, elle a fait débat quand même. On demande de la mettre dans un pot commun, qu'elle soit aujourd'hui dédiée à l'ensemble de ces associations qui œuvrent aujourd'hui et qui en souffrent de ces moyens. Et surtout les petites associations. Voilà, ça, c'en est une. Honnêtement, ça ne coûte pas d'argent. C'est juste de déplacer de l'argent dans un fonds commun qui s'appellerait un fonds d'initiative citoyenne.
Naïma Fadel, je vais à l'Assemblée.
Alors moi, la première des choses, c'est supprimer le zonage.
Avec
évidemment, vous avez bien
vous
vu que
le zonage,
je supprime le zonage. J'ai vraiment le souci de l'appartenance commune. La ville, elle doit être pensée dans sa globalité. Le maire de Sevran, s'il voit qu'il y a un problème sur son quartier, par exemple, va faire en sorte que, il y a des solidarités aussi du reste du territoire. Encore une fois, voilà, c'est penser la ville dans sa globalité, c'est intervenir sur les individus quand ils ont des difficultés, quelle que soit leur localisation géographique. J'ai fait une proposition, et je pense que Monsieur le Président de la République l'a reprise, c'est des start-up dans les quartiers. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui désenclaver les quartiers. Il ne faut pas attendre qu'il y ait cette mixité, notamment puisqu'il y a une politique de logement qui a été mise en place, et maintenant, c'est très difficile, parce qu'il y a aussi la stigmatisation de ces quartiers. Donc, être beaucoup plus dans l'offensive. Par exemple, avec la résidentialisation d'artistes à qui on pourrait donner des logements vides qu'on pourrait adapter pour qu'ils puissent aussi amener de l'art dans les quartiers, des start-up, des jeunes start-upers qui pourraient aussi venir dans nos quartiers. Alors moi, je suis aussi drastique sur la question de l'école. Je pense que l'école, c'est vraiment notre sas d'entrée dans la citoyenneté. Et je trouve vraiment triste que nos enfants soient dans l'entre-soi dans ces quartiers. Donc je serai pour supprimer les écoles dans les quartiers, construire des écoles en centre-ville et travailler sur de la mixité. Et ensuite, que ces enfants-là, par navette, puissent aller dans ces écoles.
Oui, parce que j'allais vous dire, ça suppose quand même aussi tout un aménagement et de faciliter la circulation et les flux dans les villes.
Mais je pense que c'est nécessaire aujourd'hui parce qu'il faut penser vraiment aujourd'hui la nation dans son ensemble et que c'est un souci de cohésion nationale et d'appartenance commune.
Ouais, sur les bienfaits de la politique de la ville et ainsi de suite. Encore une fois, tout n'est pas à jeter en disant que tout n'a rien été fait. Il y a des choses qui ont été faites et comment on les poursuit et comment on les accompagne et on les continue. Je veux dire, par contre, encore une fois, bien sûr, ce que dit Naïma là est tout à fait important sur le fait de sortir un petit peu que si on veut vraiment travailler sur cette mixité sociale, on nous l'avait vendu à l'époque avec la rénovation urbaine, mais on a bien vu que finalement ça n'a pas été une réalité, ça a été dans les mots mais pas dans les actes. Il faudrait absolument, honnêtement, encore une fois, ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est que s'il y a une vraie volonté politique et que si il y a un ministre qui effectivement est en haut de la pyramide, il sera en capacité, parce qu'il y aura une vraie volonté politique, de lutter contre ces inégalités dans ces quartiers.
Stéphane Gatignon, juste pour conclure, dans cet appel donc de Grigny que vous avez fait aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures, là aussi, il y en a une, 10 ou 12.
Par exemple, il y en a une qui est de dire, il faut que l'État soutienne les projets dans tous ces territoires. Et notamment, je pense, la ligne 16 du métro qui sont en train de remettre en cause, ça ne faut pas. Voilà, remettre en cause la ligne 16, c'est absolument scandaleux.
Oui, parce que tu as raison, l'autonomie se fait aussi parce qu'il y a de la mobilité.
Parce qu'il y a de la mobilité, les transports, Clichy, etc. Ça, c'est essentiel. Et soutiennent des gros projets d'innovation, souvent pas forcément par de l'argent, mais ne serait-ce que d'aider dans les mesures administratives, etc. Donc, qu'on ait ce soutien-là.
Et ben voilà,
je vous invite. Parce qu'il y a de l'innovation en banlieue, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de choses positives.
On n'est pas un problème, on est une partie de la solution, je dirais.
Voilà. Exactement, on est une grande partie de la solution.
Et je vous invite à aller sur notre site. On va mettre en lien, j'imagine que ça peut se trouver assez facilement, Stéphane Gatignon, ça, oui,
ça
c'est encore tout chaud. Mais voilà, l'appel solennel de Grigny, les propositions qui avaient aussi été faites en son temps par Mohamed Mechmash et Marie-Hélène Baquet. Et puis Naïman Fadel Tidam, bien sûr, votre livre, non, mais je n'allais pas oublier, c'était Au Seuil en avril dernier. Donc on peut encore le trouver très facilement, livre que vous avez écrit avec Olivier Roy, et tout ça devrait faire d'excellents français dialogues des quartiers. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Clément Daté. Arnaud Laporte, dans un instant ce sera à vous pour la dispute.
Dans 3 minutes, dispute spectacle vivant, et dans du Grain à Moudre demain, Hervé Galette.
On se demandera si on en fait trop aujourd'hui avec le genre.
J'ai ma réponse. Non, l'émission est annulée. Tout de suite, 19h, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.